Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne. Bonsoir chers auditeurs.
Voilà, ben c'est la dernière émission de l'année, donc un programme varié, riche comme d'habitude. Donc le sommaire, d'abord on va retrouver un de nos chroniqueurs favoris, Jean-Marc Lehrer, qui va nous parler d'un livre, je crois, paru aux éditions du Seuil, me semble-t-il.
Tout à fait.
Voilà, après Jacques, toi tu vas nous parler d'un jeudi bien noir, à ce que j'ai compris.
Exactement.
Enfin, dans la deuxième partie d'émission, eh bien, nous aurons le plaisir de retrouver, puisqu'on l'a déjà eu pour son précédent roman, Joséphine Cardona, qui est un Italo-Suisse et qui vient nous parler d'une sortie de cet automne qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Mais tout de suite, on va donc retrouver Jean-Marc Lehrer. Là, Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, eh ben, on va vous souhaiter, parce que je suis sûre qu'après, je vais pas y penser. Donc, en avance, bon boudin, comme on dit en Provence, et puis de très bonnes fêtes à venir avec plein de petits carrés, format livre, oui, plutôt...
pas des carrés de chocolat
Ah oui, aussi des carrés de chocolat, aussi. Oui, ou des boîtes un peu oblongues aussi, genre Armagnac. Bon, voilà. Allez, on va plutôt s'arrêter pour parler d'un livre qui vous a particulièrement interpellé ces derniers temps.
Oui, parce qu'alors voilà, justement, on arrive à Noël, ça va être un peu les chambres de Noël, le sucre, tout ce qui est très doux, très sirupeux, et des fois on a envie d'un truc style Jack Daniels, quoi, qui rappe un peu. Et alors ça tombe bien, parce que sous la main, vous pouvez récupérer un roman de Dan Fante. Alors Dan Fante, c'est bien le fils de son père, de John Fante. Et voilà, ça s'appelle, alors en français, Point d'Hume ou Point d'Hume, c'est un quartier quelque part là-bas sur la côte ouest à Los Angeles. C'est paru au Seuil, c'est traduit par Samuel Todd. Alors attention, c'est le genre de truc qui va vous décrasser après les excès de Noël, après trop de douceur et trop de gentillesse, parce que c'est très méchant. C'est un polar. On a un personnage alors un peu cliché, puisque c'est un ex-détective privé de New York qui, après avoir fait quelque chose, on ne sait pas quoi, on va le découvrir, est parti se réfugier en quelque sorte chez sa mère à Los Angeles. Et là, cet ancien alcoolique qui suit les séances chez les alcooliques anonymes, d'abord il supporte sa mère difficilement et il essaye de survivre en vendant des bagnoles d'occasion.
À Los Angeles, c'est jouissif.
Eh bien oui, parce que c'est une ville où si on n'a pas de voiture, de toute façon on est cuit. Donc le voilà, ce brave homme qui a la dent dure quand même, il y a une quarantaine d'années, il est teigne comme pouvait l'être John Fante dans ses bouquins, et comme l'est le fils. Et puis un jour où il est de mauvaise humeur, comme parce qu'il est tout le temps de mauvaise humeur, parce qu'il boit pas, parce qu'il est chez sa mère, parce qu'il fait un boulot qui l'emmerde, il y a un jeune con avec une, au volant d'une Porsche jaune, lui fait une queue de poisson. Et en plus, quand il essaie de lui faire savoir que c'est pas bien ce qu'il a fait, le gars lui balance une canette contre la carrosserie. Alors le personnage qui s'appelle J.D. Fiorella, décide de le retrouver, il le retrouve et il lui donne une bonne leçon. Parce que faut pas embêter J.D. Fiorella quand il est au volant de la Honda de sa mère, pourri. Sauf que le jeune homme en question, qui est une jeune femme, c'est une personne qu'il fallait pas trop non plus chercher. Elle est complètement siphonnée. Il s'enfuit une ennemie mortelle et c'est à partir de là que ça va commencer à déraper sérieusement. Voilà, alors tout ça, on pourrait dire que c'est du lu et du relu, du vu et du revu. Et alors, c'est très trash. Il y a des passages particulièrement durs. C'est aussi très très méchant, mais de façon très réjouissante, à la façon du père. Le fils, il réussit à se faire un prénom en gardant quand même cette plume qu'avait le père dans une description absolument sans pitié et sans complaisance des travers de la société hollywoodienne en particulier. Alors là, parmi ceux qui en prennent pour leur grade, il y a à peu près tout le monde, mais aussi il y a surtout les flics, il y a tous les people de l'industrie du cinéma, et puis il y a par exemple aussi les patrons de garage de vente de voitures d'occasion, les patrons macro qui profitent d'avoir une main-d'œuvre pas chère.
Ils sont bien gratinés, ceux-là. Hein.
Ah, ils sont gratinés. Hein. Ils sont tous gratinés, là-dedans. Mais de temps en temps, alors, en face de lui, il va se retrouver avec un véritable psychopathe, une espèce d'atroce serial killer... Pas piquer des hannetons. Et alors la différence entre Bamfant et beaucoup de trucs tout venant, c'est que quand il met en scène l'affrontement entre son personnage et cette espèce de taré en face, comme son personnage c'est pas un enfant de cœur non plus, ben ça saigne pour de vrai. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade, que son personnage il a pas beaucoup plus de pitié que l'autre en face, et il faut s'accrocher un peu.
Mais c'est réjouissant par beaucoup de moments aussi. Donc.
Comment ?
C'est réjouissant aussi.
Et voilà. Alors voilà, ça pourrait être juste une surenchère de violence de tripaille, mais c'est l'écriture qui a une énergie et une méchanceté, mais une méchanceté qui en même temps a une empathie pour certaines victimes, qui est une humanité qui change tout. Qui fait que ce livre, au lieu d'être un livre de plus sur un serial killer, sur un privé, sur un tout ça, il arrive à avoir cette espèce de gentillesse méchante, d'empathie pour les gens qui en valent la peine et en même temps de méchanceté totalement décomplexée pour tous les cons, qui est complètement jouissif. C'est ça qui en fait un livre à part, je trouve.
Mais Dan Fante a vraiment une écriture à part. Moi, j'ai jamais lu une fiction complète, complètement fictionnée, quoi. J'ai lu plutôt des espèces d'errances dans Los Angeles, et en fait, il se met un petit peu en scène, en bon fils de son père qu'il est, et il a une écriture absolument magnifique. On dirait presque qu'il y a de la génétique dans l'air, mais c'est impressionnant, son écriture.
Oui. Et alors là, c'est un peu le cas aussi, puisque finalement, même si c'est un roman, il y a une vraie structure, il y a une vraie narration, il y a une intrigue, il y a un début, une fin, mais n'empêche, son personnage, il a un nom italien, son père est un ex-scénariste de Los Angeles, il est ex-alcoolo qui va aux alcooliques anonymes, enfin, on sent bien qu'il y a un peu de lui dans ce Fiorella, et dans son père.
Ah oui, non, c'est sûr qu'il doit être, il doit complètement toujours se mettre en scène et puis après faire 1000 variations sur un même thème.
Oui.
Mais avec talent, de toute façon.
Avec énormément de talent, et surtout cette écriture qui est... Alors, le prologue est assez, assez dur, je n'en dirai pas plus, mais le prologue vous dit un peu où est-ce que vous mettez les pieds, et dès le premier chapitre, vous avez cette écriture qui passe à la première personne, avec des descriptions de personnages qui sont absolument très très fortes. Alors, ça peut choquer certains, parce que Fiorella, il prend pas de gants. Hein. Quand il décide de se cartonner avec quelqu'un, il a pas beaucoup de limites morales, on va dire. Il a décidé qu'il n'y a pas de justice et que donc c'est lui qui peut rendre la justice de son point de vue à lui. Ça, c'est très américain quand même, donc ça peut choquer. Mais à côté de ça, il y a cette énergie qui emporte tout. C'est un vrai ouragan qui vous emporte avec et qui vous finissez, même si c'est horrible, on finit avec... avec le sourire aux lèvres. Et si, par exemple, pour un exemple un peu de dialogue, il dit à un flic à un moment qui dit qu'il va aller rechercher le méchant, le grand méchant. Le flic lui dit, mais j'ai tout mon temps pour ça ou pour autre chose. Et le personnage, Fiorella, lui répond, pas moi. Moi, je chasse, je vais me remettre en chasse très bientôt. Et quand je tiens ma proie, je la bats. C'est toute la différence entre vous et moi. Voilà.
Ça me rappelle un petit peu par le côté, il va jusqu'au bout et la morale n'a pas, il a une morale particulière, un peu à Happ et Léonard, les personnages de Joe Lansdale.
Oui, exactement. Ou Chougrou de Crumley.
Oui, Crumley aussi, oui.
Ou Chougrou de Crumley, sauf que Chougrou a jamais arrêté de boire.
C'est vrai,
voilà, ouais.
Crumley non plus d'ailleurs.
Non.
Mais c'est une autre histoire.
Il y a un petit peu aussi des gens bien frappés un peu à la Jerry Stahl aussi quand même.
Exactement, oui.
Voilà, donc on a cité quand même des très très belles références. Et moi je suis très très contente de voir que Dan Fante arrive au seuil, parce que malheureusement les précédents étaient dans une excellente maison d'édition, 13e note. Mais malheureusement, pour l'instant, cette maison d'édition est en stand-by. Donc c'est bien qu'un auteur de cette pointure et de cette qualité arrive chez un éditeur qui peut avoir de la place dans les librairies.
Voilà. Et puis, il pourrait y avoir une suite.
On espère. Mais on vous retrouve bientôt de toute façon, Jean-Marc, pour nous en parler ou pour parler de d'autres découvertes. Donc encore une fois, bonne fin d'année.
À vous aussi.
Et puis on se retrouve en 2015.
À bientôt en 2015.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir. Alors, Jacques, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique que Jean-Marc a choisi d'ailleurs, nous a suggéré de passer, et c'est un très bon choix. C'est pas du rock, c'est du jazz. C'est un des morceaux les plus célèbres des standards de jazz, So What, et qui est joué par un duo étrange, piano-orgue, donc Michel Petrucciani, Eddie Lewis, So What.
Voilà, So What, un morceau très connu, mais une version, je crois, moins connue, avec des espèces de trilles comme ça. Voilà, absolument
ça, c'est
magnifique.
Le piano de Michel Petrucciani.
Ah, c'est magnifique. Ouais. Hein.
Et donc, c'est Michel Petrucciani et Eddie Lewis. L'album est paru il y a déjà quelques années chez Dreyfus Jazz.
Et voilà, Jacques, ta dernière chronique de 2014 aussi.
Voilà, et pour cette dernière chronique de 2014, donc, nous avons demandé à la direction d'Agora Côte d'Azur de pouvoir débaptiser notre émission. pour la soirée. Et elle va s'appeler, au lieu d'onde noire, ballon rond de noir. Parce que, bah, après Jean-Marc, qui vous avait parlé il y a quelques temps de David Peace et de Liverpool, on va encore parler de foot dans cette émission.
À Liverpool, par son côté,
voilà,
club de foot.
Bien évidemment. Qui s'appelait Rouge ou Mort.
Ou Mort.
Voilà, ce roman s'appelle Jeudi Noir. Il est écrit par Michael Mention et il est paru aux éditions Ombre Noire. Alors, vous savez, le sport en général et le foot, entre autres, on n'en a rien à cirer dans de noir. Dans la vie,
je confirme,
dans la vie d'ailleurs,
confirme.
Non plus aussi. Mais voilà, quand on tombe sur un bon roman noir, même s'il parle de foot, ben on a envie d'en parler ici. Alors, qu'est-ce que c'est, ce jeudi noir? Ce jeudi noir, c'est le jeudi 8 juillet 1982, à Séville, pendant la Coupe du Monde de ballon rond.
De foot, quoi.
Voilà, de foot. On dit on joue au ballon à Marseille. Et donc, c'est la demi-finale entre la France, nous donc, et l'Allemagne, eux donc, les méchants. Il faut des méchants, on est dans un polar. Alors, un match de foot, c'est pas un roman noir. D'accord. Mais dans celui-là, il y a un tas d'ingrédients, il y a tous les ingrédients d'un polar. Le suspense, la violence, la fourberie, les soupçons de corruption, de triche, l'action. Et bien sûr, ça finit pas bien.
Ben non, parce qu'on a perdu, c'est
et
ça.
Voilà.
Voilà, ben c'est ça ben.
Et c'est là que Michael Mention est vraiment fort, car il réussit à nous passionner pour un match de foot. Pas le match vraiment, je m'en foutais à l'époque. Je m'en suis foutu en lisant, et je m'en fous encore plus après l'avoir lu. Mais il a quand même réussi à me passionner sur un match de foot, c'est quand même surprenant.
Michael et pas Michael, voilà. Hein, le pauvre.
Et ce, Michael, oui, pourquoi je dis Michael? Ce qui est passionnant, c'est qu'en racontant simplement le match du point de vue d'un 12e joueur, alors c'est un espèce de joueur fantôme, puisqu'il est là, il joue.
Mais non, mais en fait, c'est le ballon.
Il a pas de nom, il n'intervient pas. Il joue tantôt avec une équipe, tantôt avec l'autre. Et voilà, il va nous raconter. Donc ça devient le narrateur de ce match. Alors on a le droit au dribble à tout, mais en fait il nous raconte aussi l'ambiance de l'époque. C'est ça qui nous, il remet le livre dans l'ambiance. Donc juillet 82, c'est le début de la fin du rêve Mitterrand. La crise s'amorçait déjà et on y croit pratiquement plus beaucoup au beau rose qui va nous sauver. Ce match, c'est aussi une revanche. De toute façon, on a toujours une revanche à prendre avec l'Allemagne. Et en plus, cette Allemagne, c'est pas toute l'Allemagne, c'est seulement la RFA. On se remémorera qu'il y avait le mur à l'époque. Et puis, c'est un retour sociologique sur l'époque, une époque pas vraiment épique. Alors, il nous retransmet des propos racistes, déjà ou encore, il y a trop de Noirs dans notre équipe, c'est pour ça qu'ils sont pas tout à fait français, c'est pour ça qu'il a raté le but ou le pénalty. Puis il y a aussi la haine envers le Gaulle, Schumacher, là, on se rappelle tous ce Schumacher.
Mais on n'était pas, enfin, j'étais pas né,
on n'était pas là, bien sûr non, mais enfin, quand même, on l'a vu le match à la télé ou sur YouTube. Et puis il y a la joie, quand on gagne, et puis le dépit, quand on se fait match nulé juste avant la fin. Et puis il y a la musique, toujours très présente dans les romans de Michael. La musique lui sert à restituer l'époque. Ou alors il extrait des morceaux de phrases, des textes, des chansons, pour étayer son récit. En fait, c'est les têtes de chapitre. Alors le seul défaut de ce livre, c'est qu'on finit presque, je dis bien presque, par avoir de l'empathie pour des joueurs de foot. Pour les joueurs de foot. Et avoir de l'empathie pour des joueurs de foot, c'est quand même pas très sain ni très honorable. Ceci dit,
de ton avis.
De mon avis. Et ce qui est aussi assez bien, c'est que la lecture dure sensiblement le temps du match, prolongation comprise. Donc même si vous n'aimez pas le foot, je vous conseille de passer un bon moment avec ce Jeudi Noir de Michael Mention, donc paru chez Flammarion dans la collection Ombre Noire.
Voilà, et puisqu'on a une semaine de Noël, votre libraire favori peut très bien vous le procurer. Donc pour les amateurs de foot, pour les amateurs de romans noirs, pour les amateurs de musique, vous avez un triple cadeau avec un seul bouquin. Donc on va rappeler, donc je crois que tu viens de dire l'éditeur, pardon.
Oui, Ombre Noire.
Voilà, Michael Mention. Peut-être que tu disais Michael, puisque ses deux précédents romans se passaient en Angleterre.
En Angleterre,
voilà,
oui,
dans le Yorkshire. Voilà, eh bien, on vous retrouve dans quelques instants.
Après les infos.